Et nous lisons dans l'évangile de ce jour, Jean chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Judéens, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, jamais je ne le croirai. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom.
Si quelqu'un lit l'évangile de Jean sans jamais avoir été en contact avec le christianisme auparavant, il se dirait certainement que Thomas est la seule personne sensée dans cette histoire de fou. Comment croire des individus qui ont suivi avec ferveur un homme dont le parcours s'est achevé quelques jours plus tôt par un supplice réservé aux criminels, quand il vous raconte avec la même ferveur que le guide perdu est revenu à la vie pour se présenter à eux? Jean a sans doute ajouté cette histoire par rapport aux autres évangiles pour prendre du recul sur ce que signifie la résurrection. C'est le seul des 4 évangélistes à s'intéresser vraiment à ce disciple appelé Thomas. Dans les 3 autres, il est réduit à un nom dans la liste des 12 apôtres. Il ne tient jamais un rôle de premier plan, que ce soit dans les discussions avec Jésus ou dans les actions que ce dernier accomplit. Il fait donc partie du décor plus qu'autre chose. Un peu comme les enfants qui jouent les chaînes dans les spectacles de fin d'année, ils figurent dans la foule anonyme de ceux qui suivent le maître, bien qu'ils figurent pourtant au nombre des apôtres. Mais c'est peut-être pour ça que Jean le met en exergue. Thomas, c'est l'anonyme. Ce n'est pas Pierre dont on parle à tout bout de champ, comme le fidèle entre les fidèles. Le disciple anonyme reçoit ainsi un nom, et avec lui, la foule des disciples qui suivaient Jésus et qui ne font pas partie des 12. Aucun d'entre eux n'est donc condamné à l'obscurité et à l'oubli. L'évangéliste montre ainsi, avec habileté, que la venue du Christ ne concernait pas qu'une poignée de personnages principaux. Jésus était le compagnon de nombre d'hommes et de femmes dont l'histoire n'a peut-être pas retenu le nom, mais que lui n'a pas oublié. Et c'est d'autant plus intéressant que Jean, contrairement aux autres, ne donne pas de liste des 12 apôtres. Peut-être qu'au moment où l'évangile est rédigé, bien après les 3 autres, était déjà fixée dans sa communauté une liste d'apôtres et que l'auteur n'a pas senti le besoin de s'exécuter à cet exercice. Mais pour ma part, je préfère considérer que ne pas nommer les 12 permet d'instaurer une égalité parfaite entre tous les disciples de Jésus. Même si certains sont plus proches que d'autres, au fond, ils sont tous l'objet de la même attention de la part de Dieu, ceux de la première heure, comme ceux qui ont tourné leur cœur vers lui depuis peu de temps. Par la bouche de Thomas, c'est par ailleurs l'incrédulité de tout un chacun, y compris des disciples mêmes, qui est exprimée. Le doute est ainsi reconnu comme une attitude légitime. Ce ne serait pas le cas si Jean se serait contenté de raconter la première apparition de Jésus, qui représente la première partie de notre texte. Thomas est le premier personnage à refuser la résurrection, à la nier. Les autres personnes, avoir été confrontées au tombeau vide ou à l'apparition de Jésus, ont exprimé de l'étonnement, de la peur, de la stupéfaction, de l'allégresse, de l'émerveillement, mais aucune n'était allée jusqu'à nier ce qui s'était passé. Mais tous les autres acteurs de l'épisode de la résurrection sont directement confrontés à ce prodige. Ce n'est pas le cas de Thomas. Il ne l'apprend que par la bouche des autres. Et l'impact qu'a eu ce récit dans nos mentalités montre bien que l'être humain est porté à croire avant tout ce qu'il perçoit par les sens, plus que ce qu'on lui rapporte. Ce que je viens de dire pose évidemment des questions abyssales pour nous ce matin, qui sommes rassemblés par la foi d'un Dieu révélé par des textes écrits en 3 langues et 2 alphabets différents, dont la composition après 1 millénaire d'histoire, le tout rassemblé dans un ouvrage assez épais selon les éditions, et dont tout ce qu'il nous raconte nous semble très éloigné. Et pourtant ce livre, dont le titre même signifie le livre en grec, est toujours le plus lu au monde, aussi absurde que cela puisse paraître, même pour les esprits les plus cartésiens. Je ne vais pas m'appliquer à trouver une réponse à ce problème. Des gens bien plus savants que moi qui ont passé leur vie le nez dans des grimoires et autres manuscrits y ont consacré des centaines de pages que vous pouvez lire. C'est pourquoi je reviens à Thomas. Comme je le disais au début, son scepticisme peut sembler justifiable. Comment croire une histoire aussi invraisemblable que l'arrivée d'une personne qu'on a vue mourir de ses yeux ou dont on avait appris la triste fin? L'incrédulité serait assurément le premier réflexe pour bien des gens face à un pareil récit, que l'on soit croyant ou non. On chercherait alors des preuves du prodige pour effacer le scepticisme, pour confirmer les réticences ou même pour ne pas être pris pour un fou si on s'y mettait à y croire. Mais dans le cas de Thomas, en tant que personnage du récit de l'Évangile, il ne peut pas considérer que le relèvement d'un mort soit chose impossible. Il a lui-même vu Jésus opérer un tel miracle. En effet, il apparaît à 2 autres reprises dans l'évangile de Jean. La première fois durant l'épisode de la résurrection de Lazare, Avant que Jésus ne se rende auprès de la famille du défunt, nous lisons, c'est en Jean 11, « Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres, « Allons-y nous aussi, pour que nous mourions avec lui. » Il est singulier que ce soit à ce moment que Thomas apparaisse pour la première fois chez Jean, lors de la seule résurrection opérée par Jésus dans cet évangile. Sa deuxième apparition se trouve au chapitre 14, au milieu du long discours de Jésus durant la scène, où d'ailleurs chez Jean, ils oublient de manger, puisqu'il ne raconte pas l'histoire de l'institution de la scène. Et Jésus annonce qu'il va bientôt partir en disant « Et là où moi je vais, vous n'en savez pas le chemin. » Ce à quoi Thomas répond « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus leur dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » En Jean 14. Si le chemin désigne le chemin qui mène au Père, c'est aussi le chemin qui nous attend dans la vie après la mort. Thomas le questionne donc sur ce qui nous attend. Il révèle, sans le savoir, le rôle de Jésus le Fils en tant qu'intercesseur qui fait le lien entre le royaume des cieux et notre monde. Thomas se retrouve ainsi dans le rôle d'un disciple spécifiquement associé au thème de la mort et de la résurrection. Il est d'abord celui qui attend la mort, mais qui va être surpris par les circonstances. Le cours naturel de la vie va s'inverser sous ses yeux avec Lazare qui sort du tombeau, alors même qu'il s'en fait le défenseur le plus affirmé. Dans le premier passage que je vous ai lu, il semble accepter la mort avec une légèreté disproportionnée par rapport à ce dont il parle. Il inviterait presque à aller mourir comme si c'était un jeu. Le rapport de Thomas à la mort prend donc des apparences de sagesse pragmatique qui se plie aux réalités de la vie, mais il dénature ainsi ce dont il parle. Jean présente à mon avis ce personnage avec une pointe d'humour pour s'en prendre à ceux qui font de l'acceptation de la mort le seul horizon d'attente de l'humanité, comme si nous n'étions sur Terre que pour se préparer à la mort et ainsi oublier de vivre. Et au premier siècle de notre ère, tout le monde sait que philosopher, c'est apprendre à mourir, comme disait Socrate, le père de la philosophie. Mais Jean ne rentre pas en conflit ouvert avec la philosophie grecque, selon moi. Son évangile reste celui qui s'ouvre sur la primauté de la parole, du logos. Il vise plutôt une certaine caricature de cette philosophie. Caricature qui empêche de juger les réalités de la vie humaine à leur juste valeur, au point de réduire la mort à un slogan. Ici, allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. Le vrai danger de ce mode de pensée, c'est la résignation qu'elle peut engendrer. La mort, acceptée ainsi, de manière aussi apathique, peut revenir à se résigner dans une situation aberrante, à privilégier la bonne impression au bien vivre. Il vaut mieux supporter sa souffrance avec passivité plutôt que de se révolter contre elle. L'injustice devient préférable à la révolte, la douleur au bien-être, l'absence de droit à la lutte contre la servitude. Et c'est pourquoi le Christ répond à Thomas en allant à l'encontre de ses paroles de manière spectaculaire. Dans notre texte du jour, sa seconde apparition devant ses disciples, parmi lesquels cette fois Thomas est présent, est l'occasion de le prendre à partie pour réfuter ses doutes. Il va même jusqu'à le pousser à toucher ses blessures en écho à ce qui était la réaction première de Thomas. Et celui qui brillait auparavant par son scepticisme est frappé d'étonnement au sens fort étymologique de « coup de tonnerre ». Il ne peut plus que s'exclamer « Mon Seigneur, mon Dieu », afin de se repentir de ses doutes. Le scénario de Jean 11 et de la résurrection de Lazare également semble ainsi se répéter. Alors que le disciple semblait accepter la mort comme une fatalité, le Christ prouve à tous ceux qui le voient, et à Thomas en particulier, que même la mort ne saurait l'arrêter. Comme il a permis à Lazare de se relever, Jésus lui-même se lève d'entre les morts. Par sa mort, il a vaincu la mort, comme dit la prière de Pâques par excellence dans les églises d'Orient. Mais si Jésus, en tant que Fils de Dieu, révèle sa supériorité sur la mort par sa résurrection, ce miracle n'est possible que grâce à Dieu. Il s'accomplit de manière extraordinaire et échappe à la raison. Et c'est pourquoi Thomas oppose à un miracle divin un point de vue humain pour lequel la mort est la limite suprême. On peut croire en Dieu, se démener toute sa vie dans n'importe quelle activité, on ne pourra échapper à la mort. C'est bien la pensée qui pèse sur les épaules de Thomas dans notre passage. Alors qu'au chapitre 11, il ne prenait pas la mort au sérieux, il n'avait pas compris la gravité qui lui était associée. Ici, après la disparition de l'homme dont la parole avait changé sa vie à jamais, il se laisse écraser par la tristesse qui accompagne cette perte. De son point de vue, ce que lui racontent les autres disciples ressemble fortement à du déni. Ils inventeraient cette histoire d'apparition miraculeuse parce qu'ils refuseraient de faire le deuil de Jésus. Quand un être auquel on tenait est parti, son fantôme, le souvenir de sa présence, peut hanter notre quotidien. On ne fait que constater l'absence partout où cet être n'est plus. L'apparition de Jésus paraît, dans cette logique, manifester cette présence invisible de l'absent pour Thomas. Mais la limite à toute assimilation entre le récit de la résurrection et les situations de deuil que nous pouvons connaître dans notre quotidien tient au fait que Jésus, selon la foi chrétienne, revient 3 jours après d'entre les morts. Nos proches partis ne ressuscitent pas 3 jours après sous nos yeux, comme ce que dit le récit biblique pour Jésus. Sa résurrection est la promesse que les hommes et les femmes de tout temps, protégés par l'amour de Dieu, ressusciteront un jour aussi, que la mort n'aura pas le dernier mot. Le cri de Paul en 1 Corinthiens au chapitre 15, « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» et la confirmation que le Christ a vaincu pour nous la mort, qui nous donne la force de ne pas trembler devant elle. Vous allez me dire que c'est facile d'exhorter à ne pas craindre la mort, surtout quand le prédicateur a moins de 25 ans et qu'il peut se sentir moins concerné. Et vous avez raison. Il est facile de dire que la mort ne nous fait pas peur quand elle n'est pas vécue comme une menace imminente. Dès lors qu'elle devient une présence qui me concerne directement, que je sais qu'elle est sur le point d'advenir, pour moi, bien souvent, tous les beaux discours qu'on a pu tenir dans sa vie entière s'envolent et la peur de l'inconnu reprend le dessus. On pourrait citer nombre de sages qui se sont préparés toute leur vie à mourir pour que leur sagesse ne leur serve de rien et qu'ils plient sous la crainte. Personne, malgré la sagesse ou malgré la foi, n'est indifférent face à la mort, qu'il s'agisse de la sienne ou de celle de ceux qu'on aime. Face à la mort de l'être humain a donc souvent des réactions qui ne sont peut-être pas glorieuses ou mémorables, mais qui n'en sont pas moins naturelles. Jésus lui-même a tremblé avant de subir sa passion, quand il priait la nuit à Gethsémané. Son cri sur le chemin de croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» est aussi le cri de celui qui est victime de la mort douloureuse. Dieu, incarné dans le Christ, connaît nos souffrances physiques et morales face au trépas. Et parce qu'il les a vécues, lui aussi, il les comprend. Thomas, dans ce texte, représente somme toute une réaction normale et humaine. Son refus de donner du crédit à ce que ses amis lui racontent peut être compris comme une manifestation de sa tristesse, selon moi. Depuis que le Christ a été mis en croix, il refuse toute évolution. Il ne parvient pas à faire le deuil du Jésus qu'il a connu. Seul reste pour lui l'affliction, sans qu'il puisse trouver un chemin nouveau après l'épreuve de la perte. C'est pour cela que Jésus ressuscité devait se montrer une deuxième fois à ses disciples. Il ne pouvait pas laisser l'un d'entre eux dans le doute et le chagrin. La joie de la résurrection lui est aussi destinée. Si nous comparons Jean aux autres évangiles, nous voyons qu'il est le seul à raconter une deuxième rencontre avec les disciples dans la maison, une fois ressuscité. Que ce soit chez Matthieu, Marc ou Luc, Jésus n'apparaît qu'une fois à ses anciens apôtres réunis. Même si chez Luc, les disciples d'Emmaüs rajoutent un épisode, ce n'est au fond qu'un avant-goût de la véritable apparition qui attend tous les disciples. Jean brise ce scénario, mais Jésus aussi, comme Dieu aime si souvent aller à l'encontre de ce qui est attendu. Il n'y aura pas une unique apparition grandiloquente du Christ ressuscité devant ses apôtres avant la venue de l'Esprit-Saint. D'autant que c'est le ressuscité lui-même qui le leur donne dans notre passage. Le Jésus de Jean revient spécialement pour Thomas, qui était absent la première fois. Ainsi, dans un groupe de 11, si un seul d'entre eux manque à l'appel, le Christ reviendra exclusivement pour lui. C'est là le signe que chacun d'entre eux et chacun d'entre nous comptons pour Dieu. Aucun ne saurait être exclu parce qu'il n'a pas eu droit à la même rencontre que les autres. Le Dieu de l'Évangile de Jean, qui se révèle dans la figure du ressuscité, est donc réellement un Dieu qui se penche sur chaque individu, qui adresse une réponse spécifique à leur détresse. Jésus pousse Thomas à reconnaître la véracité de la résurrection, comme il demandera plus tard, au chapitre 21, à Pierre, trois fois s'il l'aime, s'il est son ami. Et les trois oui de Pierre seront une réponse qui effacera les trois non de son reniement. C'est alors que le Dieu de la joie, de la réconciliation, peut se révéler au monde. Le Dieu qui oublie les reniements et les offenses qui lui étaient adressées. Le Dieu qui ne châtie pas le doute, la colère et le chagrin, mais qui apporte une réponse pour retrouver la paix. Car c'est bien ce qu'il dit à ses apôtres, « Que la paix soit avec vous ». Et ici, ce n'est pas une simple formule de salutation, comme cela peut l'être aujourd'hui encore dans de nombreuses langues orientales. Jésus est réellement le messager de la paix. Paix entre les hommes, mais aussi paix entre Dieu et l'humanité. Le parcours de Thomas nous montre un chemin de foi singulier. En marge de ses condisciples, sa rencontre avec Dieu aura lieu individuellement. Non pas au moment attendu qu'était cette première apparition, mais plus tard, quand Dieu lui donnera une nouvelle occasion de le rencontrer. Jean nous montre qu'il n'y a pas de chemin tout tracé vers la foi. Chacun aura le sien. Certains seront semblables, très semblables, comme les 10 apôtres présents à la première apparition. D'autres en auront un qui ne sera similaire à aucun autre. Il n'y a pas un moment dans la vie préposé à la foi. Mais Dieu peut se révéler à toute personne, à n'importe quel moment. C'est lui qui choisit le moment opportun. Cette rencontre avec Dieu prend ainsi la forme d'un chamboulement où tous les a priori sont renversés, où l'on ne peut que s'exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu ». La dernière parole de Jésus dans notre texte, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » À mon avis, d'ailleurs, « convaincu » est une mauvaise traduction parce que c'est le même verbe qui est employé avec « croire », donc « parce que tu m'as vu, tu as cru » serait préférable. N'est pas tant un reproche adressé à Thomas qu'une apostrophe au lecteur qui ne se trouve pas dans la situation des apôtres, mais pour qui il est possible de croire en Dieu, qui s'est révélé aux hommes et dont il ne peut avoir connaissance que dans les pages de l'Écriture qui témoignent de cette révélation. Ainsi, Jean montre ce qu'est la résurrection, une absurdité qui va à l'encontre de toute logique, mais une absurdité qui fait sens pour le croyant, qui se donne à saisir dans une immédiateté et qui prend sens dans la foi. Elle vient sceller la révélation du Dieu d'amour incarné en Jésus-Christ, mort sur la croix. Elle vient affirmer à l'humanité que Dieu est bien mort pour elle et qu'il la sauve de la mort. La confiance, autre mot pour la foi, de l'être humain en Dieu et l'assurance que Dieu ne nous abandonne jamais, même quand le doute nous éloigne de lui. Car le scepticisme de Thomas est peut-être raillé par Jésus, mais il n'est pas condamné. Thomas est libre de ses pensées et Dieu ne le condamnera pas pour ne pas avoir été parfait. Sinon, Jésus ne se serait pas révélé à lui. Dieu reconnaît ainsi la légitimité des doutes qui sont dissipés par le sentiment de joie qui éclate à la vue de Jésus. Les appréhensions sont ainsi dépassées pour laisser place à une confiance sans bornes en Dieu. Même si nous avons des doutes à un moment dans la vie, même si la tristesse face à la perte d'un être cher nous prend, même si la peur nous saisit avant le dernier voyage, Dieu reste avec nous et nous accompagne pour nous préparer à nous exclamer, nous aussi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Amen.